Il y en a du monde. Bon, ça va, le trésorier, c'est mon père. On devrait s'arranger. Donc, pour introduction, effectivement, je reviens effectivement des Pays-Bas, d'un stage de 6 mois aux Pays-Bas. Et pendant ces 6 mois de stage, bah, j'ai été pas mal travaillé sur plusieurs aspects de ma vie avec Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un point plus particulièrement, c'est la confiance en Dieu, la confiance en son identité. Lorsque j'étais aux Pays-Bas et que je suis arrivé, j'avais pas de maison. J'ai seulement jonglé en fait entre plusieurs auberges de jeunesse au début, et en fait j'avais pas grand-chose sur moi. Du coup, une des choses sur lesquelles j'ai été beaucoup travaillé, c'est en fait les besoins les plus basiques pour moi, de quoi j'ai besoin vraiment de vivre le plus basiquement possible. Et comme le dit beaucoup de chansons, en fait c'est vraiment Dieu la chose dont on a le plus besoin. On n'a pas besoin autant de la sécurité qu'on a besoin de Dieu, parce qu'en fait, Dieu garde tout, globalement. Pour commencer, je voudrais donner l'exemple de Jésus qui traverse le lac, dans Marc 4. Lorsqu'il traverse le lac, il y a la tempête qui arrive, l'histoire est relativement connue, et là, les disciples prennent peur. Ils vont réveiller le maître et ils disent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Il n'avait effectivement pas trop confiance, ou du moins il n'avait pas compris quelque chose, c'est qu'il pouvait faire confiance en Dieu à ce moment-là. Et c'est pas facile. En théorie, c'est assez simple de dire, oui, je te fais confiance, Seigneur, tu vas agir. Mais après, dans la pratique, c'est un peu dur dans le temps. J'ai plusieurs exemples à donner. Je dirais que ça fait en fait assez longtemps que je suis travaillé sur ce point. La première fois que j'ai été travaillé, je dirais que c'était pendant la maladie de mon frère. Mon frère, il y a maintenant un petit moment, heureusement c'est fini, mais est tombé assez gravement malade. Pendant 2 ans, il était quasiment tout le temps à l'hôpital. Il y a eu beaucoup d'intercessions de la part de l'Église, et de mon côté, au tout début, lorsque les médecins ne savaient pas vraiment ce qu'il y avait, ils n'avaient pas à faire quelque chose, j'ai commencé à envisager la chose, la possibilité que je perde mon frère. Mon frère, c'était l'une des choses les plus précieuses que j'avais à ce moment-là, et d'ailleurs, ça l'est toujours, enfin bref. Ma prière, c'était « Seigneur, ne me l'enlève pas, s'il te plaît. » C'était ma première prière, ma prière du cœur. Mais en fait, il y avait aussi une réponse derrière. Si jamais je venais le perdre, est-ce que je resterais encore avec Dieu? Si je venais le perdre, que resterait-il? C'était le premier moment où j'ai proclamé en moi-même, « Seigneur, si jamais je venais à le perdre, je resterai avec toi. » Plus tard encore, à d'autres moments, le Seigneur, il aime bien me travailler par des petits défis comme ça. Avant, c'était rien de très pratique, mais après, c'est un peu plus passé à pratique. Si jamais quelqu'un venait un jour à l'église, il me disait, je viens au nom du Seigneur, viens avec moi, je vais t'emmener quelque part. Lâche tout ce que tu as, quitte ta famille, quitte tout, un peu comme Abraham. Est-ce que je répondrai oui? Est-ce que je répondrai oui à l'appel? Encore une fois, ça fait réfléchir. Et personnellement, moi, je dis oui. Je dis oui parce qu'au fond, je sais que je peux mettre ma confiance en Dieu, que grâce à lui, tout ira bien, ou même que grâce à lui, je rentrerai dans ses plans, et que c'est un peu la meilleure manière de vivre. Même si les difficultés sont là, je ne le cache pas. Et encore une fois, c'était dans la théorie, quelque chose que je réponds avec le cœur, avec ma présence. Oui, Seigneur, je serai là pour toi, je veux te suivre. Un peu comme Pierre qui disait que je te suivrai toujours, Seigneur. Après, dans la pratique, c'est forcément un peu plus dur. La première chose dans la pratique qui m'est arrivée, c'était aux Pays-Bas. J'avais un vélo. J'ai déjà donné cet exemple à Noël. Mais j'avais un vélo, et aux Pays-Bas, c'est vraiment très utile un vélo. Ça permet d'aller partout, ça me permet d'aller au travail. Et l'important, c'est qu'un soir, je suis rentré chez moi et j'ai laissé les clés sur le vélo. Le lendemain, il n'y avait plus de vélo. Et j'avais pas beaucoup d'argent non plus à ce moment-là pour investir dans un vélo. Un vélo, c'est quand même vraiment important. C'est un peu comme votre voiture pour aller au travail le matin. C'est important. Du coup, ma réaction a été d'essayer de trouver un moyen, d'essayer de voir les caméras de vidéosurveillance qui étaient devant l'hôtel ou de faire quelque chose, quoi. On ne peut pas rester comme ça. Mais voilà, l'endroit des vélos n'était pas surveillé par la caméra de surveillance qui était devant. Enfin, bien sûr, tout était fait pour que je ne puisse pas retrouver le voleur comme ça. Ma réaction, ça a été du coup, bah, de remarquer que ce n'était que quelque chose de matériel, un vélo. Et que si Dieu m'a voulu ici, m'a amené dans cet endroit, il y avait une raison. Du coup, j'ai juste décidé de mettre ma confiance en lui. Seigneur, je pardonne la personne qui aurait pu me voler un vélo. Et je te remets juste la chose entre tes mains. Parce qu'au fond, un vélo, c'est juste quelque chose de matériel. Si tu veux que je continue le travail, il me faut quelque chose. Mais je m'en remets entièrement à toi et je ne vais pas commencer à chercher par mes propres moyens un vélo. Le fait est que dans la même journée, alors que j'allais au pressing, je retrouve mon vélo quelque part dans Amsterdam, en chemin. C'était assez marrant, surtout qu'en fait, il y avait toujours le loquet dessus. Enfin, il n'y avait pas la clé dessus, mais disons que j'avais une clé de rechange dans mon sac, donc il y avait quand même moyen de s'arranger. Enfin, un peu compliqué, mais du coup, Dieu m'a juste redonné le vélo ensuite. Je me souviendrai encore de cette phrase d'un ami qui était avec moi là-bas et qui m'avait, suite à ça, avait fait sa petite conclusion. En fait, Dieu me teste et après il me fait « Ah, c'est bien, good boy, voilà ton vélo. » Ensuite, il y avait encore l'histoire de l'appartement. Au tout début, je jonglais toujours entre les auberges de jeunesse, mais je n'avais pas l'endroit pour moi où me reposer, je n'avais pas d'appartement, je n'avais pas les finances pour aller jusqu'au bout tout le temps en auberge de jeunesse. Et en plus, l'administration des Pays-Bas voulait me caser dans un logement, parce que sinon je suis en train de travailler illégalement, en gros. Et du coup, il fallait que je trouve en gros un logement avant début novembre. Autrement, j'enfreignais la loi, en fait. Et c'est un problème, car j'avais beau chercher, je ne trouvais pas. Il y avait tout qui était contre moi, encore une fois, là-dessus. Et impossible de trouver un logement. Tous les logements étudiants sont remplis, c'est impossible. Lorsqu'on essaie de passer des plateformes qui sont assez connues, on est mis sur liste d'attente. Et en fait, d'ailleurs, si on veut un logement aux Pays-Bas, il faut s'y prendre 2 ans à l'avance. Donc, c'était pas mon cas. Voilà, j'étais encore une fois pas très bien. Et encore une fois, il a fallu travailler beaucoup parce que faire de la recherche d'appartement, ça me prenait beaucoup de temps. Et c'était pas encore le temps de Dieu pour moi de chercher le logement. Et ça, je m'en rendais rapidement compte. Ça m'épuisait énormément. Du coup, j'avais beaucoup de temps d'intercession, de moments où je pouvais me réunir avec l'auberge de jeunesse. C'est une auberge de jeunesse chrétienne, où j'ai appris d'ailleurs pas mal de choses. Et... ouais, c'est vraiment allé beaucoup mieux sur cet aspect. J'ai eu des clés pour rester... confiant avec Dieu, savoir qu'il allait pouvoir, mais qu'il fallait juste attendre et continuer à croire. Et c'est pas facile de lâcher la chose, parce qu'autant, c'est pas logique, humainement parlant, de ne pas chercher un appartement alors qu'on s'approche de la date limite. Enfin, c'était une situation assez embêtante. Et c'est finalement vers la fin, proche de la deadline, que j'ai trouvé sur Facebook une annonce, que ça, tout s'est finalement super bien passé. Et le 1er novembre, j'ai pu entrer ma chambre. Juste au moment de la détail. J'aime bien ce genre de clin d'œil, mais c'est pas facile sur le coup. J'aimerais afficher un verset, Matthieu 6, verset 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce verset était déjà très fort, et je continue encore de me l'imprégner, car il est vrai. Si on recherche d'abord Dieu et ensuite les choses matérielles, Dieu prend soin de nous et nous fournit les choses. Aujourd'hui encore, j'ai mes questions. Aujourd'hui encore, il y a des choses que je ne comprends pas, et je ne sais pas le futur. Je ne sais pas où est-ce que j'irai au Canada dans 6 mois. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais y faire, je sais juste que c'est là-bas que Dieu m'appelle. Donc, je continue de faire confiance. Il y a un dernier truc dont que je veux vous donner, c'est une proclamation que je peux aussi prendre pour moi-même. Ésaïe 13, versets 1 à 2. Tu peux aller au verset 2? Ok, c'est pas celui-là. Bon, je vais le rechercher ailleurs du coup. C'est une proclamation qui... Ah non, c'est Ésaïe 12. Ésaïe 12, versets 1 à 2, je m'en souviens. Désolé. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Quand il dit au tout début, en ce jour-là, au verset 1, quand il dit...